Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Son esprit revient et sa colère aussi. Il lui demande « Et pourquoi ?» Elle lui dit « Parce que pense à ta famille, à nous. » Il lui dit « Et moi, je dois payer pour ce que j'ai fait. Sinon, je me détresterai le reste de mes jours. » Elle lui dit « Ce n'est pas grave. » Il lui dit furieux « Quoi ?» Elle lui dit « Oui. » Quoi ? On s'arrange toujours avec sa conscience. C'est qu'une affaire de point de vue. Elle gobe tout du moment que c'est présenté comme il faut. » Il lui dit dégoûté. « Mais que dites-vous là, mère ? » Elle lui dit « Tu comprends. Quand tu seras calmé, tu comprendras mieux. Il faut, c'est que tu puisses prendre un petit décontractile. Tu vas voir, ta mère va bien s'occuper de toi. » Il lui dit, « Vous me traitez comme un enfant, je suis un homme. » Elle lui dit, « Ne sois pas méchant avec moi. Je suis ta mère et tu feras ce que je te dirai. » Il lui dit furieux, « Non, j'en ai assez de faire toujours ce que vous désirez que je fasse. » Elle lui dit, et lorsque tu nous désobéis, tu vois où ça te mène. Il lui dit, je sais que lorsque je vous obéis, où ça me mène, à ça. Ce crime horrible, j'ai tué ma femme, que j'aimais et qui m'a donné des fils, par votre faute. Elle lui dit outré, « Qui t'a dit de tuer ta femme ? Mais tu es fou ! Et si tu as tué quelqu'un, c'est parce que tu nous as déshonorés une fois. » Il lui crie, « Taisez-vous, mère ! Ce que vous dites est abject. Je Je n'ai été que l'objet qui a tué ma femme. Et c'est vous l'assassin. Et c'est moi qui paye ce crime que vous avez préparé depuis des années. La porte s'ouvre, apparaît Auguste. Il demande, que se passe-t-il ici? On vous entend depuis le couloir. Amélie lui dit, ton fils veut se dénoncer à la police. Le père furieux dit à son fils, et pourquoi? Pierre lui dit, parce que j'ai tué ma femme. Père hausse ses épaules et lui dit, t'es complètement idiot, mon pauvre garçon. Tu as perdu la raison. Pierre lui dit, non, j'ai pas perdu la raison, et vous le savez très bien. Son père lui dit, comment? Tu délires? Pierre lui dit, moi? Oh non! J'avais une femme que j'aimais par amour pour moi, pour me sauver. Elle se donne à vous et vous la sacrifiez pour en être délivré. Son père furieux lui dit, mais de quoi tu parles? Elle se sacrifie? Ta femme? Elle s'est sacrifiée? Elle était toujours au lit. Pierre lui dit, ne fais pas l'imbécile. Elle s'est sacrifiée la fois où elle est venue vous voir pour demander de l'aide parce que j'étais très malade. Pour me sauver, elle est entrée dans la cage au lion en sachant qu'elle serait dévorée par vous. Et vous l'avez fait. Son père lui dit furieux, tu nous traites de lion maintenant? On lui a... fait quoi, ta femme? Elle a été soignée à nos frais et vous avez vécu jusqu'à présent sur notre dos. Si tu crois que tu aurais eu une situation sans moi, mon pauvre Pierre, et en guise de remerciement, tu nous dénonces à la police de crime. Pierre lui dit, je vais me dénoncer. Son père lui dit, c'est la même chose, mon pauvre petit. Pierre lui dit, eh bien tant pis, je vais me dénoncer. Sa mère lui dit, si tu te dénonces, le déshonneur sera dans ta famille. Pense à tes enfants, à nous. On dira qu'ils avaient un père qui a tué sa mère. Pierre lui dit, on dira qu'ils n'y sont pour rien. Sa mère lui dit, on va dire qu'ils ont des gènes d'un tueur et que l'on risque de l'être. Chaque fois qu'ils voudront se marier, il y aura une enquête. La chose ressuscitera et le médecin de la famille dira qu'il y a un risque. Tu vas te dénoncer et ta famille veut payer. Veut payer de génération en génération. Le père lui dit, et Carole, quand elle va apprendre ça, réfléchis. Si tu veux te punir, tu peux le faire à la maison. Les voleurs, on les laisse à résidence. Alors, toi aussi. Ta mère lui dit, je te ferai plus tes petits plats préférés. Son mari la regarde en haussant les épaules et dit, tu travailleras deux fois plus. Pierre le regarde effaré et leur dit, mais et pour sacrifier mon âme et mon âme pour le purifier, le libérer de ce poids. Auguste lui dit, eh bien, tu iras tous les jours à la messe et te confesseras. Pierre lui dit, mais vous êtes complètement fou, je vais me dénoncer. Et s'apprête à quitter la pièce. Le père lui met la main sur l'épaule et lui dit, halte,
cela. Tu sais que dès j'ai des relations et que je suis en affaire avec Franc-Blanc, qui eux font la pluie et le beau temps de partout. Il me suffit de dire à la police que tu n'es plus dans ton état normal pour qu'ils ne t'écoutent pas. Et tu sais que Pontoise a des maisons de santé très perfectionnées avec tout ce qu'il faut et que l'on ne revient pas de ces maisons. Qu'à côté de chaque établissement, il y a un cimetière et qu'après 6 mois de pension, on se repose là-bas. Tu sais que Pontoise est groupé avec Genetou et que son groupe est à Franc-Blanc. Tu sais que dans ces maisons, on soigne et fait oublier aux pensionnaires leur peine en leur renvoyant dans le cerveau des rayons laser, ce qui est assez douloureux et rendent, disons, débiles. On est même obligé, c'est de mettre des couches. Ils ne savent plus parler ni marcher. Alors, sa mère lui dit,
allons, mon fils, écoute ton père. Laisse-toi aller. Qu'est-ce que la morale? Ce n'est rien pour nous. Quand tu fais, qu'as-tu fait? Rien. Tu as apaisé la douleur de ta pauvre femme, qui d'ailleurs était perdue, un jour de plus ou de moins. Mais c'était un jour de moins de souffrance pour elle. Et c'était beaucoup pour elle. Et puis tu sais bien que l'euthanasie est autorisée dans certains pays. La France est toujours en retard pour la modernité. Son père lui tapote l'épaule et lui dit
« Allez, allez, on va bien prendre soin de toi. Une petite déprime, ce n'est rien. C'est l'effet du veuvage. Et n'oublie pas Carole. Elle t'attend après. Elle compte sur toi, la brave fille. Belle fille, tiens. Si elle n'était pas mon fils, Pierre se dit, mais
il serait bien capable de me la prendre, ce salaud. Je vais le surveiller de près, va. La jalousie l'a rendu d'aplomb et Antoinette passe au second plan. En fait, c'est un impulsif qui vit d'instinct et ses passions effacent l'autre. Le père se dit,
c'est gagné.
La mère lui dit, je vais te chercher un calmant et une tisane. Tu vas te coucher de suite. Ne t'occupe de rien. Absolument de rien.
Les enfants dans leur chambre ont entendu la dispute. Frédéric se dit, il paiera la mort de mère. Éric se dit, ce sont des salauds.
Ils sortent tous les trois de la chambre d'Amélie. Il tombe sur l'infirmière.
Vous avez besoin d'aide? J'ai entendu des cris.
Auguste dit, non, rien. Mon fils déprime. C'est normal. C'est dû au deuil.
Allez, allez.
Amélie amène Pierre à sa chambre.
Thank you.
Elle lui dit,
allonge-toi, je vais te chercher ce qu'il te faut.
Et elle le laisse. Pierre se sent fatigué, tendu. Il est vrai qu'après cette longue scène et cette déprime d'avant, tout ça l'a épuisé. Il se dit, nous verrons demain. Il se déshabille. Et se couche. On frappe à la porte.
Entrez.
Entre sa mère. Elle a un bol bouillant. Elle lui dit,
c'est ta tisane, mon chéri.
Elle va vers le lit. Lui tend le bol.
Tiens, bois. Il y a du bouillon et du miel, un comprimé.
Pour te détendre. Il hésite, elle lui dit.
Ne crains rien. J'ai bien mis la dose. Et puis, nous avons déjà ta femme. Deux, c'est un peu trop.
Elle sourit et lui dit.
C'est une blague.
Il boit. C'est délicieux. Et ça lui fait du bien. Il a l'impression d'être redevenu un petit garçon. Et que sa mère, avant qu'il s'endort, va lui lire la suite de Jacques d'Alphonse Daudet. Il est redevenu le petit garçon. Rend le bol à sa mère. Elle lui sourit et l'embrasse sur le front. Et elle quitte la pièce. Non, elle ne lui a pas lu la suite de Jock. Tant pis, il va s'imaginer une histoire. Et petit à petit, il s'endort. Demain, il se réveille, la langue pâteuse. Il n'a pas du tout envie de se lever. Il est bien au chaud. On frappe à la porte.
Merde! Entrez!
Entre sa mère. On ne semble pas du tout surprise de le trouver au lit. Elle va vers lui, le sourire, et lui demande.
Tu vas mieux?
Il lui dit, oui, mère. Elle lui dit,
tu restes bien au lit aujourd'hui. Demain, on commence l'enterrement de ta femme. On l'incinère. Repose-toi bien et ne pense à rien. Moi, j'ai des tas de courriers à écrire. Je dois répondre à des lettres de condoléances. Un travail fou. Tu peux t'occuper de tout. Et de ton père s'occupe de tout et de ces deux monstres. Reste dans leur chambre. Allez, je me sauve.
Et elle quitte la pièce. Il se dit, il est vrai qu'il y a cet enterrement à faire, comme si les morts avaient besoin de tout ça. En plus de la peine de l'avoir tué, il faut que j'assiste à son enterrement. Il est redevenu ce qu'il était, le fils à ses parents, égoïste, cynique. Pourtant, vous me direz qu'il a aimé sa femme, a été chevaleresque en quittant ses parents pour elle. C'est la preuve qu'il n'était pas comme ça et qu'il pouvait être une autre personne en conflit avec sa famille et prendre sa liberté. Alors pourquoi est-il devenu le fils de maman? Parce que c'est une personne qui a toujours vécu dans du coton. Et s'il a fait l'expérience d'une vie indépendante, ça n'a été qu'une expérience. Et puis, il y avait le désir d'Antoinette. Mais une fois qu'il s'est retrouvé dans le cocon familial, il a retrouvé sa propre matière, nature. Il a été prêt à tout sacrifier pour y rester. Même de sacrifier sa famille. Qu'il avait fondée. Et ses parents, qui le connaissaient bien, l'ont aidé dans cette voie. On l'a enivré de travail, de plaisir futile. Et lui a tout accepté. Tout ça pour rester un enfant gâté. Bien sûr, il ne le sait pas. Il se croit un redoutable adulte. Mais ses parents le savent. De rester au chaud, bien au lit, cela lui donne envie, et cette envie lui donne envie d'avoir Carole, désire Carole. Bien qu'il n'en ait rien à faire, il la désire de plus en plus. C'est à cause de l'excitation, l'émotion des derniers temps. Ça le pousse à ce désir. Il veut absolument la voir. Le temps passe. Il n'y a presque pas de bruit dans la maison. Les gens sont à leurs occupations. On lui a apporté son petit déjeuner au lit. Après avoir déjeuné, il se sent complètement rétabli et décide de se lever.
Il se lève, met sa robe de chambre, ses pantoufles pour aller à la salle de bain prendre une bonne douche.
Puis retourne à la chambre pour s'habiller. Là, il décide c'est de mettre un costume noir. Et
Il sort de la chambre.
Dans le couloir,
il trouve sa mère et lui dit surprise,
« Mais qu'est-ce que tu fais tout habillé ?»
Il lui dit, « Je vais mieux. » Elle lui dit,
« Fais attention, hier tu étais presque à l'article de la mort. » Et maintenant,
il lui dit, « Je vais tout à fait bien, mère. » Et il la laisse. Elle lui demande, « Où vas-tu ?» Il lui dit,
« Je reste à la maison. Je vais donner un coup de fil. »
Elle lui demande, « À qui ?»
Il lui dit, « À une personne, rien. »
Et il la laisse.
Elle se dit qu'il doit téléphoner à cette Carole. Il est mieux, il pense à elle. À se distraire. Elle empêche de faire des bêtises. Il entre dans le bureau de son père.
S'assoit au bureau, prend le téléphone et fait le numéro de Carole. Il attend un peu.
Allô? Oui?
Il lui dit, c'est moi.
Elle lui dit, ah, c'est toi.
Il lui dit, tu sais, pour ma femme.
Elle lui dit, oui, j'ai appris dans le journal, l'internet.
Je te présente mes condoléances.
Il lui dit, tu es heureuse.
Elle lui dit, je t'en prie, Pierre,
ne sois pas cynique.
Il dit,
tu sais, j'ai envie de te voir.
Elle lui dit, je sais.
Il lui dit, alors?
Elle lui dit,
rien, il est trop tôt. J'ai pensé venir à l'enterrement, et puis je me suis dit que ça aurait été de très mauvais goût si les personnes connaissent toute liaison. Ça aurait été fâcheux.
Il lui dit, mais ça n'a aucune importance, puisqu'elle est morte.
Elle lui dit, pour elle, peut-être, mais pas pour les gens qui restent et qui l'ont aimée.
Et puis, pense à ta famille.
Il lui dit, ma famille te trouve délicieuse.
Elle lui dit, merci.
Et même tes petits monstres.
Il lui dit, t'occupe pas d'eux. On va les mettre en pension et en attendant au château, dès l'enterrement fini.
Elle lui fait, les pauvres petits.
Il lui dit, pas si petit que ça.
« Alors, on se voit si tu veux, cet après-midi. Je n'ai rien à faire. »
Elle lui dit, « Non, et puis tu devrais aider ta famille pour l'enterrement. »«
On se voit quand ?»
Elle lui dit, « Plus tard. Laisse faire le temps. » Il est furieux, elle lui dit.
« Pas trop, j'espère. »
Elle lui dit, « Le temps qu'il faut. Allez, au revoir, je t'embrasse. » Et elle raccroche. Il est furieux. Il reste sur sa faim. Il se dit qu'après ce qu'il a fait pour elle, elle le traite d'une drôle de façon. Peut-être veut-elle le larguer. Si elle le fait, il la tue. Maintenant, c'est la routine que de tuer. Le premier, c'est très difficile. Et après, c'est de la routine. Il est furieux et a envie d'aller chez elle. Oui, tiens, s'il allait y faire un tour. Il sort du bureau.
Et va vers la sortie de l'appartement.
Où vas-tu?
C'est sa mère.
Il lui dit, je sors 5 minutes.
Elle lui dit,
aujourd'hui? Mais ta femme est connue ici.
Il lui dit,
qu'est-ce que j'y peux?
Et il sort. Elle se dit,
pourvu qu'il ne soit vu par personne,
un veuf de 2 jours qui court déjà les filles. Ça fait mauvais genre.
Une fois dehors, il reprend son souffle. L'air lui fait du bien. Il va prendre sa voiture. Et roule en direction de chez Carole. La circulation est fluide. Il arrive rapidement devant chez elle. Elle va garer sa voiture devant chez elle. Pour entrer dans l'immeuble, il faut appuyer à l'interphone. Il hésite un peu, puis se dit « Zut !» Il appuie.
« Oui ?»«
C'est moi. »«
Qui ? Quoi ?»
Il lui dit « Pierre !» Elle lui dit
« Mais qu'est-ce que tu fais ici ?»
Il lui dit
« Je voulais te voir. Tu peux m'ouvrir ?»« Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Tu es en deuil et ta femme est encore chez toi. »
Il lui dit
« Ouvre, je ne peux pas te parler ici. »
Il entend des clics de la porte.
Il entre dans l'allée.
Va prendre l'ascenseur. Et monte. Puis, il va sonner à sa porte.
La porte est ouverte. C'est elle. Elle semble furieuse et lui dit « Tu me veux voir ? Eh bien, tu me vois ?» Il lui dit, je peux entrer? Elle lui dit, je suis pressée, je te préviens, je n'ai pas très peu de temps, je vais travailler. Elle le laisse entrer. Ferme la porte. Les mains sur la poitrine, elle lui demande, alors, qu'est-ce que tu as à me dire? Elle se penche pour l'embrasser, elle se retire. Il lui demande « Pourquoi ?» Elle lui dit « Tu es en deuil !» Il lui dit furieux « C'est pas moi qui suis mort !» Elle lui dit « T'es complètement ridicule ! Aucun sens des convenances ! Remarque, si je meurs, je saurai comment tu te comporteras !» Il lui dit « Arrête !» Elle soupire et lui dit « Alors ?» Il lui fait « Quoi ?» Elle lui dit « T'as quelque chose à me dire ?» Il lui dit, je suis venu sans dialogue et je dois improviser. Elle lui dit, alors, tu es venu comme ça, pour rien. Il lui dit, si, je t'aime. Elle lui dit, bon, eh bien, tu me l'as dit, tu peux repartir. Il lui dit, pas tout de suite, comme ça. Tu as une drôle de façon de recevoir. Elle lui dit, je suis pressée. Tu veux boire quelque chose? Oui. Allons, viens au salon. Et il la suit. Il se dit qu'il a gagné. Il est chez elle et n'est pas prêt de s'en aller. Il le fait entrer au salon. Assieds-toi. Il lui montre un fauteuil. Il s'y assoit. Tu veux boire ? Il lui dit, un bourbon ? Et toi aussi, non ? Elle lui dit, ça te fait plaisir. Elle va chercher la boisson.
Elle est revenue, pose sur la petite table basse et fait le service. Tiens, merci. Puis, s'assoit en face de lui. Ils boivent une gorgée en silence. Puis il lui demande « Qu'est-ce que tu as fait tous ces jours ?» Et lui répond « Rien, rien d'intéressant. Travail, travail. Je vais beaucoup en Amérique pour leurs jeux vidéo. Et toi ?» Moi, rien. Elle lui fait « Si, ta femme ?» Il fait « Ah, oui !» Il la désire de plus en plus. Il a en face de lui ses jambes grandes, minces, lisses. Elle porte une robe rouge très courte. Ses jambes sont serrées mais pas repliées. Il se dit, je suis sûr qu'elle n'a pas de petite culotte. Elle lui demande, tu penses à quoi? Il lui dit, je me dis que je suis sûr que tu n'as pas de petite culotte. Elle lui dit, tu ne penses qu'à ça? Il lui dit, c'est normal d'aimer une fille comme toi. Elle rit et lui dit, tu seras toujours le même, un sale petit gosse vicieux. Il lui dit, comme aiment les femmes. Il met la main sur sa cuisse gauche. Elle rit et lui dit, enlève ta main, vicieux. Il lui dit, je sais que tu en as envie. Et il monte la main. Elle soupire. Arrête, je n'ai pas le temps. Il lui dit, justement, faisons vite. Il continue à monter. Il est dessous la jupe. Elle lui dit, arrête, je vais me fâcher. Il arrête. Tend le bras et se penche sur elle. Cette main la paralyse. Elle lui dit, « Bon, allons dans ma chambre, mais vite. » Il se dégage, elle se lève. Il la suit. Elle le mène à sa chambre. Du salon et elle le mène à sa chambre. Fait entrer. Puis elle va vers le lit. S'allonge sur le dos. Soulève sa jupe jusqu'au haut du ventre. Elle n'a pas de petite culotte et attend. Lui descend son pantalon et son slip. Puis s'allonge sur elle.
a été rapide et efficace. Ils en avaient besoin tous les deux.
Il se redresse, s'essuie avec un mouchoir et se rhabille.
Elle se soulève et range sa jupe.
Puis elle se lève, souffle et lui dit « Ça va mieux ?» Il lui dit « Oui, et toi ?»
Je vais me laver dans la salle de bain. Et elle le quitte.
Lui range le bas de son pantalon.
En se baissant, il voit sous le lit un souffle blanc d'homme. Il le prend furieux.
Qu'est-ce que ça ?
Elle revient. Il monte le slip qu'il a au bout du doigt.
Qu'est-ce que c'est ?
Elle ne dit rien. Il dit,
tu vas pas me dire que c'est à toi.
Elle lui dit, mais non, bien sûr.
Alors, il est à qui?
Elle lui dit, à quelqu'un.
Qui?
Elle lui dit, je ne sais pas. Il s'approche d'elle.
La gifle.
Elle lui dit, t'es complètement fou?
Oui.
Et il la pousse sur le lit. Elle est tombée dessus. Il voit sa ceinture pour son pantalon. Il la sort pour lui donner un coup. Il demande.
Alors, à qui il appartient?
Tu es fou?
Donne encore un coup. Ça lui fait mal sur le ventre. Il fait le geste de lui en donner un autre.
Elle se soulève et attrape la ceinture.
Au vol. Et lui, il tombe à terre.
Et il essaye de prendre la ceinture en lui tirant, en la tirant à lui.
Allez. Salope! Allez, rends-moi cette ceinture!
Elle lui crie, tu es fou! Tu es fou!
Rends-moi cette ceinture! Rends-moi cette ceinture!
Ils sont tous les deux en sueur. Elle lâche sa ceinture. Il tombe à la renverse.
Ah!
Ça lui a fait mal au dos.
Il y a des difficultés à se relever.
Elle accourt à lui. Elle aide à le relever. Elle lui dit,
tu vois, où ça te mène, ces folies?
Tu as un amant?
Elle lui dit, bien sûr que non. Le slip est un genou, comme ça, une fois, regarde sa taille. Et tu verras que c'est la vérité.
Il lui demande.
Mais pourquoi?
Elle lui dit, parce que j'en avais besoin. J'étais seule.
Mais tu aurais pu me faire venir.
Elle lui dit, non.
Je voulais te voir
que lorsque tu étais libre. Il lui dit,
tu as préféré me tromper. Au lieu de m'appeler,
oui, parce que je t'aime vraiment.
Et j'aurais pas voulu t'appeler juste pour ça.
Et tu as trouvé mieux de me tromper. Elle lui dit,
tu parles si peu.
Tu ne peux pas être jaloux de ça. C'est comme si j'avais changé de restaurant une fois. Parce que j'avais faim et que le restaurant où je vais était trop loin.
Il lui dit,
tu vois les choses d'une drôle de façon. Je ferme les yeux pour cette fois et lui dis.
Il se fait tard. Je vais m'en aller.
Il lui fait. Ah oui, c'est vrai. Moi aussi j'ai la famille. Et lui demande. Comment ça se passe là-bas? Il lui dit. On fait ça très bien. Comme il faut, quoi. Tu me demandes pas si ça a été très difficile pour moi de... Elle lui dit, effarouché. Mais tu m'aimes pas? Je ne t'ai jamais demandé? Il dit furieux. Je sais, personne ne me l'a demandé. Et tout le monde voulait que je le fasse. Mais une fois que j'ai obéi, tout le monde me met la chose sur le dos. Moi, je n'avais rien à faire de ma femme. Elle ne me gênait pas du tout. Elle était dans sa chambre. C'est à vous qu'elle gênait. Je l'ai fait à cause de vous.
Elle lui dit. Ne crie pas comme ça. Tout le monde va le savoir.
Il dit. Et alors?
Elle lui dit. Nous parlons de ça plus tard. Viens, il est tard. Ils sortent de la chambre.
Elle le mène vers la sortie de l'appartement, lui demande « Nous revoyons quand ?»
Elle lui dit « Je ne sais pas, nous verrons. Tu comprends? Il faut attendre à cause des convenances. » Il lui dit « Tu n'as plus envie de vous revoir après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Elle lui dit « Si, bien sûr !» Il lui dit « C'est vrai? Tu es... Toi, tu as tes jeunes. Mais moi, qu'est-ce que je fais?
Elle lui dit, tu n'as qu'à faire comme moi.
Il lui dit, garce!
Garce! Et il sort de l'appartement.
Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.